T'as un certain pouvoir, l'influence, ça représente un certain pouvoir.
Donc je vais pas lui faire la promotion d'un produit que même moi je n'utilise pas.
Et c'est vrai qu'à chaque fois que tu postes quelque chose, il y a des répercussions derrière.
C'est ça, c'est peut-être 7000 euros une story et un post.
Salut Morgane.
Salut Fabien.
Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur cet épisode de Tizi Media.
Merci à toi de me recevoir.
Je le rappelle, Tizi Media, c'est un média en ligne qui raconte des histoires simples pour expliquer des concepts complexes dans le monde du business, de la data, de la tech et du branding. Tu te présenteras tout à l'heure, tu as un parcours hyper intéressant. Tu nous aideras à comprendre un peu tout ce qu'on appelle social media management, création de contenu, influenceuse, influenceur. Et on apprendra que tu n'as pas fait ça toute ta vie, tu n'es pas né dedans. Avant, tu étais aide-soignante. Alors habituellement, je suis seul face à la caméra et je raconte une histoire où je décortique un concept pour améliorer son business ou tout simplement apprendre de nouvelles choses. Cela dit, le format podcast est assez similaire à ce que je fais habituellement et je te propose de commencer comme j'ai l'habitude, c'est-à-dire raconter une histoire et après on en parle ensemble. Ça marche ?
C'est parti.
Nous sommes en 2010, une période où tous les réseaux sociaux explosent. Des plateformes comme Instagram, YouTube, Twitter deviennent les nouveaux terrains de jeu des créateurs de contenu, qui voient dans ces outils une opportunité unique de se connecter directement avec leurs audiences. Avant l'apparition de ces plateformes, il était très difficile de s'adresser à un large public simultanément, ce qu'on appelle le one to many. Un contenu, un message, potentiellement des millions de personnes touchées en une seule fois. Le potentiel est énorme et rapidement reconnu. Bien sûr, cela n'a pas échappé aux marques, qui perçoivent le potentiel gigantesque des influenceurs pour promouvoir leurs produits. C'est le début d'une ère dorée où la popularité en ligne peut se transformer en véritable mine d'or. Il faut ajouter un élément de contexte important dans les années 2010. Les consommateurs deviennent de plus en plus conscients des stratégies publicitaires traditionnelles et beaucoup commencent à les percevoir comme intrusives et manipulatrices. Ils comprennent que les marques cherchent à les pousser à consommer. Cette prise de conscience crée un climat de suspicion envers tout ce qui ressemble à une publicité trop marquée. C'est là qu'intervient le pouvoir de l'authenticité des influenceurs. Les influenceurs semblent proposer un contenu plus authentique, plus sincère et plus personnel. Ils partagent leur quotidien, testent leurs produits et donnent leur avis de manière décontractée et non scénarisée. Cette approche diffère radicalement des spots publicitaires traditionnels, perçus comme trop polissés, trop artificiels. Pour les consommateurs, cette proximité apparente et cette authenticité est rafraîchissante. Ils commencent à faire confiance aux influenceurs comme ils pourraient faire confiance à un ami qui leur recommanderait un produit. L'avis d'un influenceur semble plus fiable, car il est présenté comme une expérience personnelle et non comme une publicité commanditée. Donc forcément, avec tout ça, ça explose. Et comme à chaque fois qu'un sujet explose, il y a des abus. Quand on sait qu'un grand influenceur, c'est-à-dire un influenceur qui cumule entre 500 000 et 1 million d'abonnés sur une même plateforme, peut toucher entre 5 000 et 15 000 euros par poste, forcément ça attire des personnes. Et vu les sommes folles en jeu, ça attire également ceux qui sont prêts à tout. Les pratiques douteuses et leurs conséquences sont nombreuses. Des influenceurs vantent des mérites de produits qu'ils ne connaissent à peine, parfois de très mauvaise qualité, et parfois même des produits qui n'existent pas. D'autres expliquent comment gagner beaucoup d'argent, en prenant de gros risques en bourse par exemple. Il y a même un certain Billy McFarland, qui a fait promouvoir son festival auprès de grands influenceurs comme Kendall Jenner ou Bella Hadid. Un festival qui n'a jamais eu lieu. Plus de 7000 personnes ont pourtant dépensé environ 30 millions de dollars et près de 2000 se sont retrouvés coincés aux Bahamas, pensant que ce festival allait vraiment avoir lieu, sans lieu où dormir, sans toilettes, ni nourriture en quantité suffisante. Bref, c'est l'absence totale de régulation. Alors même que le milieu de la publicité est très contrôlé, notamment pour éliminer toute forme de publicité mensongère. Il faudra attendre 2021 pour que quelque chose bouge. 2021 et un homme. Booba. Booba n'est pas qu'un rappeur, c'est aussi et surtout un maître du clash sur les réseaux sociaux. Son nouveau défi en 2021 est simple, dénoncer ouvertement les pratiques de certains influenceurs, qu'il accuse d'arnaquer leurs abonnés avec des produits de mauvaise qualité ou des services douteux, comme des arnaques liées à des produits amincissants, des concours truqués ou des plateformes de trading frauduleuses. Il s'attaque particulièrement à certaines figures bien connues de la télé-réalité, qu'il accuse de profiter de leur notoriété pour vendre des produits peu fiables à leur audience. On parle notamment de Marc Blatta et de Magali Berda. Booba surnomme ses influenceurs les influvoleurs, un terme qui devient rapidement viral. Il pointe du doigt la manière dont ces personnes utilisent leur image et leur influence pour manipuler leurs abonnés, souvent des jeunes, en leur faisant croire à des promesses irréalistes. Les dénonciations de Booba ont un impact considérable. Elles déclenchent une prise de conscience chez de nombreux abonnés de ces influenceurs concernés, qui commencent à remettre en question les promotions auxquelles ils sont exposés. Ces attaques médiatiques mettent également la pression sur les marques et les plateformes pour mieux encadrer ces nouvelles pratiques de publicité. Cette campagne de Booba contre les influx voleurs ne s'arrête pas là. Ça ne se limite pas à des posts sur les réseaux sociaux. Il pousse les autorités et les régulateurs à s'intéresser de plus près à ce genre de pratiques. En France, cela contribue à un débat beaucoup plus large sur la nécessité de réglementer le marketing d'influence afin de protéger les consommateurs de ce genre d'abus. Les influenceurs ciblés par Booba tentent de se défendre, mais des accusations portées par une figure aussi influente et suivie ont des répercussions. Certains influenceurs voient leur crédibilité et leur popularité littéralement chuter, tandis que des enquêtes sont ouvertes sur leurs pratiques. Booba devient ainsi une sorte de porte-parole de ceux qui critiquent les dérives du marketing d'influence. Son action est perçue pour beaucoup comme une forme de justice populaire, venant d'un artiste qui n'hésite pas à utiliser sa plateforme et sa popularité pour exposer ce qu'il considère comme des comportements malhonnêtes. Aujourd'hui, les choses ont évolué et la législation a avancé dans plusieurs pays, dont la France.
Salut, c'est Fabien, j'interromps cette vidéo 30 secondes pour te parler d'un sujet qui devrait t'intéresser. Tu le sais peut-être déjà, mais notre métier avec Teezy Studio, c'est de développer des applications mobiles et métiers pour nos clients. Et ce qui nous caractérise, c'est qu'on place l'expérience utilisateur et le parcours client en top prio. Et ça, on le fait notamment grâce à la data. On récolte, on mesure, on analyse, on teste, on améliore et on itère. Dans le cadre de ce métier, on fait beaucoup de recherches, beaucoup d'hypothèses et on essaye d'anticiper et de comprendre les comportements humains à travers l'anthropologie, à travers la sociologie, la psychologie, mais également la neurologie. Mais les apps mobiles ne sont que la partie émergée de l'iceberg, car c'est surtout le fruit de tout un travail qu'on fait dans l'ombre et qui est passionnant. Et c'est pour ça qu'on a créé cette chaîne, pour s'inspirer et raconter des histoires passionnantes afin de lire l'avenir à travers les plis du passé. Mais on ne s'arrête pas là, puisqu'il y a tout un tas de contenus qu'on crée qui ne sont pas propices au format vidéo et qui ne seront a priori pas partagés sur cette chaîne. On a donc créé une newsletter qui est basée sur ce même principe. Chaque semaine, une histoire, trois concepts à maîtriser pour améliorer sa marque, son entreprise ou son produit et une anecdote surprenante. C'est totalement gratuit, si ça t'intéresse, je te mets le lien en description. Sinon, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour découvrir chaque mois une histoire réelle du passé qui impacte encore nos vies aujourd'hui.
Morgane, toi, tu connais bien ce milieu, mais tu as à cœur d'être claire là-dessus, t'es pas influenceuse.
Non.
Tu te considères pas comme influenceuse, mais tu travailles dans le marketing d'influence.
Oui.
Et ton métier à toi, c'est le social media management.
Exactement.
Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton métier de manière assez vulgarisée ?
Ok, et moi je suis Morgane, donc j'ai 28 ans, j'ai créé Garde-robe, donc l'identité de ma boîte il y a maintenant 5 ans. Ça s'est développé avec le temps, au départ j'ai ouvert avec un e-commerce de prêt-à-porter féminin, et ce e-commerce a été ouvert après une période Covid, pour pas ouvrir sur la période qui était un petit peu, comment on peut dire,
Covidé.
Ça a été un choix de ne pas ouvrir le e-commerce en période de Covid, sachant que des commerces de proximité étaient fermés. Donc j'ai préféré attendre. Et si tu veux, ce qui a fonctionné dans mon parcours, et c'est pour ça que je tiens à dire que je ne suis pas influenceuse, c'est que en fait, je n'avais pas de contact forcément avec ma famille parce que ils sont à plus de 30 km de toi, et donc du coup on partageait un peu sur les réseaux sociaux. Et de fil en aiguille, beaucoup suivaient mon projet de e-commerce et se sont abonnés à mon compte Instagram. Mais par plaisir, par divertissement aussi, et par surtout une certaine légèreté, parce qu'il y avait un climat qui était assez tendu. Et par la suite, du coup, le e-commerce super, et toute la communication que je faisais pour ce e-commerce a commencé à plaire, et on m'a dit, moi j'aimerais bien que tu fasses ma communication, et 1, et 2, et 3. Et là, tu te dis, c'est parti, pas de souci, mais je vais peut-être me former, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, je ne suis pas issue de ce milieu-là, mais je fais partie de cette génération Z qui a toujours touché à ça. Et finalement, je me prends une formation, et puis j'arrive, et on me dit, c'est comme ça qu'il faut publier une story. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, ils en sont hyper loin. Moi, j'ai 20 ans, je sais comment fonctionne Instagram, je sais comment fonctionnent des algorithmes. Et du coup, j'ai créé en fait l'agence Garde-robe, donc sur toute la partie social media. Donc mon rôle, c'est une partie stratégique dans la communication. Donc je mets tout en œuvre pour faciliter cette communication qui est engageante. Donc ça passe par la création de contenu, de la stratégie. Et en fait, ça englobe cette partie authentique. Et ça, c'est très important.
On reviendra sur ton métier un peu après, parce que moi j'ai plein de questions et je pense que ça peut intéresser de savoir combien ça coûte, quelle entreprise ça concerne.
Ouais.
Moi, il y a un sujet que tu as dit qui m'intéresse, c'est... Donc toi, tu es quand même suivi, tu es très suivi sur les réseaux, ouais. On reviendra dessus un peu après. Parce que j'ai appris, moi, du coup, en préparant cet épisode, qu'il y avait véritablement, en fonction du nombre d'abonnés, on appelle ça un petit influenceur, un micro-influenceur, un gros influenceur, etc.
Exactement. Donc,
on détaillera ça un peu après. Mais il y a un truc que tu as dit qui est intéressant, c'est que au début, toi, tu, parce qu'il y avait le Covid et parce qu'il y avait cette distance avec ta famille, tu as commencé à poster sur les réseaux.
Ouais.
Pour rester en contact avec ta famille.
Avec ma famille, on s'envoyait. C'est l'ère où TikTok aussi est rentré pas mal dans les mœurs. Et du coup, on faisait des choses assez divertissantes, on s'amusait et finalement, les gens étaient chez eux et étaient sur leur téléphone. Et c'est depuis cette période Covid que la façon des consommateurs d'acheter un produit ou pas a changé. C'est-à-dire que depuis le Covid, avant, les gens scrollaient, oui, sur le téléphone. Aujourd'hui, on scrolle parce qu'on cherche quelque chose, on cherche quelque chose qui nous capte et on ne consomme pas du tout de la même façon. C'est-à-dire que tu veux voir un produit, et si tu as le produit, tu peux l'acheter directement. Enfin, il y a beaucoup d'outils qui permettent de faciliter les achats en ligne, notamment sur du e-commerce. Et du coup, moi, je mets ce service-là, pas forcément pour du e-commerce, mais pour du commerce de proximité.
Ok, ouais. Moi j'ai en tête que effectivement l'année Covid a fait exploser TikTok en France.
Ouais.
Alors que toi, là où t'es le plus suivi, c'est Instagram.
Ouais.
Donc comment est-ce que l'explosion de TikTok a fait transformer les fonctionnalités d'Instagram et c'est ce qui a fait que ton mode de contenu il est très TikTok aussi, c'est que de la vidéo principalement.
J'ai un compte qui est très authentique parce que comme je te disais tout à l'heure, c'était pour mes proches et j'ai surtout un contenu qui est aussi divertissant parce que il peut s'adapter si tu veux, moi il y a 5-6 ans tu pouvais l'adapter à chaque réseau social.
Ce qui m'intéresse à vrai dire c'est pas tant l'explosion de... Mais je connaissais pas cette histoire en fait, toi t'as commencé parce qu'avant t'étais pas du tout dans la création de contenu.
Absolument.
On peut dire que t'es créatrice de contenu, c'est ça?
Alors oui, je mets un point d'honneur sur la partie créatrice de contenu parce que comme tu l'as évoqué dans l'histoire que t'as raconté au départ, il y a vraiment un élan qui s'est produit autour des influenceurs et les influenceurs, il faut pas oublier qu'ils sont nés par la télé-réalité. Et pour te donner un exemple, parce que je sais qu'après on va revenir sur le sujet, je communique de façon locale dans mon métier par l'agence de communication. Je fais une communication qui reste quand même locale, voire régionale. Je ne m'étends pas plus loin. Tout à l'heure, tu parlais des tranches d'influenceurs. Oui. Eh bien, par exemple, si moi, je devais appliquer les prix, je suis consciente de mon marché et je ne veux pas surfer sur cette vague que, par exemple, je te dis une vidéo, je devrais la facturer 600 euros. Une vidéo, c'est pas possible. Je suis consciente de mon marché. Le but, c'est de faire travailler et de dynamiser en fait le commerce de proximité ou des entreprises. Et finalement, on est un peu tous dans le même bateau. Donc l'idée, c'est de trouver un arrangement avec les entreprises.
Ok, pour qu'on y comprenne bien entre la différence entre ton métier, donc le social media management, et le métier d'influenceur, c'est que le métier d'influenceur, il se fait payer pour sponsoriser, pour faire la promotion à travers son compte de quelque chose.
Exactement.
Alors que toi, tu travailles au niveau de la stratégie des médias, enfin en tout cas de la communication via les réseaux sociaux, c'est ça.
Exactement.
Directement pour les marques, enfin pour les entreprises.
Exactement. Et ça peut passer par mon biais, parce que je sais que j'ai quand même de la visibilité, mais le but, c'est qu'ils se développent, eux, avec leur image de marque et avec leur personnalité et leurs valeurs. Moi, je suis juste là parce que je connais les codes du métier et je suis là pour mettre tout ça en valeur et les accompagner dans ce projet-là.
Ok. Alors, d'après les chiffres, j'avais dit qu'on y reviendrait, tu es ce qu'on pourrait appeler une micro-influenceuse. Mm. C'est-à-dire que la taille de ton audience est située entre 10 000 et 100 000.
Ouais.
Toutes plateformes confondues, c'est comme ça qu'on compte, c'est en cumulant toutes les plateformes.
Exactement.
Okay.
Ouais.
Pourtant, tu insistes souvent en disant que tu ne gagnes pas d'argent avec ça, d'où ma question juste avant. Aujourd'hui, quel regard portes-tu sur ton audience? C'est-à-dire, elle représente quoi ton audience? Donc, t'as quoi? T'as 25 000 personnes qui te suivent?
J'ai pratiquement 20 000 okay. personnes qui me suivent. Elle représente énormément. Pourquoi ? Parce que finalement, ces personnes-là me suivent pour tout ce que je présente au quotidien. Mais je ne me présente pas forcément... alors, on pourrait dire que je fais de l'influence, mais dans le sens où je t'appelle ça de la création de contenu, c'est qu'en fait, je ne fais que partager mon quotidien. Je partage mon quotidien et je partage mon travail au quotidien et je mets en valeur des entreprises, mais je mets en valeur en fait mes clients et parce que j'ai envie de partager ça avec ma communauté. Et si tu veux, cette communauté-là est hyper attrayante parce qu'elle va poser des questions, elle va s'intéresser et en fait ça va créer de l'engagement. Et donc tu as une sorte de connexion qui reste par le biais d'un réseau social, mais elle est quand même là et c'est marrant parce que les gens ont l'impression de te connaître. Mmh. Et toi, des fois, tu te dis « je suis désolée ».
On ne se connaît pas.
On ne se connaît pas, mais des fois, des fois, je peux dire bonjour et après, je fais oh, « mais qui c'est ?» Voilà.
Alors, ce qui est, ça, on y reviendra parce qu'il y a un sujet, c'est le concept d'aujourd'hui, c'est le sujet que je veux qu'on décortique. Il y a quand même quelque chose qui est... T'as un certain pouvoir, l'influence, ça représente un certain pouvoir. Ouais. Et je peux en témoigner parce que, pour ceux qui le savent, qui te suivent, t'es tatoué.
Ouais.
Parce que je suis présentateur, tatoueur.
Tout corps de métier.
Et c'est vrai qu'à chaque fois que tu postes quelque chose, il y a des répercussions derrière. Et ça, comme justement ton métier n'est pas l'influence, tu ne te fais pas payer pour ça. Ouais. Mais donc tu le fais de manière, on va dire, volontaire. Et toi, quand tu partages un avis sur un produit... Tu sais qu'il y a un impact, enfin peut y avoir un impact en tout cas, mais tu le fais gracieusement d'une certaine manière.
Exactement. Par contre, je ne vais pas te... Parce que forcément, tu as de la visibilité, donc tu as des demandes qui tombent tout le temps. Et en fait, je vais te prendre un exemple qui est assez concret et qui, moi, m'a fait prendre conscience de ces choses-là. Si tu veux, on va parler de publicité. Quand le marketing d'influence a commencé à s'installer, les marques type L'Oréal, etc., ont commencé à contacter. Tu avais des plateformes par le biais, etc. Et un jour, 20 ans, tu as L'Oréal, Mugler qui te disent on peut t'envoyer un colis, etc. Et moi, toute contente, je me dis c'est super, c'est une belle marque, c'est des beaux produits. T'as 20 ans, tu peux pas forcément te le payer, etc. sur des fonds de teint. Enfin, c'est des produits quand même qui sont assez haut de gamme. Et j'ai eu en fait la réflexion de quelqu'un qui m'a dit c'est super, mais ce fond de teint, en fait, il coûte 60€. Moi, je peux pas me le prendre. Et là, moi, je savais pas parce que c'était au tout début et je me dis mais comment... Mais elle a raison, c'est vrai, et moi c'est pareil. Donc je vais pas lui faire la promotion d'un produit que même moi je n'utilise pas. Et ça a vraiment percuté et je me suis dit mais je veux pas du tout rentrer dans ça. Et je veux vraiment rester sur le côté j'utilise, j'achète, je consomme et c'est ce que je partage. Mais par contre, il y a pas de gifting, il y a pas tout ça. Donc oui, j'ai un sacré budget. Mais avec mes clients, oui, j'achète toujours.
T'as pas été acheté par une marque ?
Je n'ai pas été acheté. Je consomme et voilà, parce que je suis créatrice de contenu et que je partage mon quotidien. Mais voilà.
Et c'est pas dur de résister face à certaines propositions qui peuvent être intéressantes financièrement, qui peuvent être intéressantes. En fait, c'est pas du tout ton milieu. Tu n'es pas intéressée par.
Parce que l'influence ne m'intéresse pas. Okay. Et moi, je suis passionnée par mon métier, donc tout ce qui est communication, social media. Et je trouve ça plus intéressant pour moi personnellement aussi de mettre en valeur d'autres entreprises.
Ok, parce que on l'a vu dans l'histoire que j'ai racontée juste avant. C'est vrai qu'il peut y avoir des propositions très alléchantes et des possibilités. Quand je le disais tout à l'heure, quand on a de l'influence, on a du pouvoir.
Ouais.
Et même si ça reste à ton échelle, mais quand même 20 000 personnes, moi je dois avoir 300 personnes sur dont 250 qui savent pas qui je suis, qui me suivent. Donc ça doit être dur quand même. Je me dis de résister. Mais non, mais t'as répondu très clairement.
Ouais. En soi, c'est vrai que si on arrive et qu'on me dit, alors il faudrait vraiment que j'ai énormément d'abonnés, mais on te dit, oui, en moyenne, c'est ça, c'est peut-être 7 000€ une story et un post. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux te poser la question, mais par contre, je serai complètement honnête. Et vu le contenu que je crée et qui est tellement honnête, je pourrais dire, on m'a fait une proposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'y vais? Enfin voilà, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est très réglementé. Moi, quand je travaille pour des campagnes de marketing d'influence, donc moi, sur l'agence, aujourd'hui, tu contrôles tout. Hein. Donc, il ne faut pas faire de dérive. Tu ne prends pas n'importe quelle marque. Tu ne fais pas de la communication pour quelque chose qui n'est pas certifié. voilà, il y a plein de réglementations à respecter.
Ouais, on l'a vu notamment depuis à peu près 2021, depuis tout ce scandale où maintenant on est obligé d'indiquer quand c'est une collaboration commerciale, alors qu'avant ils pouvaient simplement dire, ils pouvaient maquiller en fait.
Exactement.
C'est vrai que ton contenu il est extrêmement authentique, je pense que c'est ce que les gens aiment.
Ouais.
T'as réussi à pas te faire travestir par les marques, si je peux dire. On mettra en description tous tes liens, tous tes réseaux. Moi, je vous invite j'invite les gens qui écoutent ça, cet épisode, à te suivre, à découvrir ton contenu assez authentique. Moi, je veux qu'on revienne sur ton métier.
Ouais.
Parce que c'est ça qui compte au final. le métier de social media manager. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour quelle entreprise et combien ça coûte.
Alors, pour quelle entreprise ? J'ai autant. Je travaille autant avec des artisans, commerçants, petites et moyennes entreprises.
Ok.
Moi, j'aimerais bien avoir des grandes.
Ok.
Ça donc... me stimule, mais je suis toute petite dans le milieu encore. Mais plus j'avance et plus j'ai envie de aussi pousser mes compétences et surtout les mettre en action. Parce que quand tu fais ces métiers-là, tu es. Tu es très artiste en fait. Et un artiste il pense énormément et il veut surtout créer tout le temps. Et je suis un peu une boîte à idées sur pattes. Tu me parles d'un projet, je vais te dire oh ouais, bah on peut faire ça. Donc il faut aussi arriver à se contrôler. Au niveau des tarifs, comme je t'expliquais tout à l'heure, vu que quand je t'expliquais en fait que j'ai pas ouvert mon e-commerce au départ par rapport aux commerçants qui étaient fermés, etc., bah c'est un petit peu le même principe parce que j'y étais aussi commerçante, même
T'as été e-commerçante.
J'ai été e-commerçante, mais je suis aussi. J'ai aussi cette position-là où je sais que les temps ont été compliqués. Et il faut savoir que la communication, c'est un investissement. Donc, pour les plus petites entreprises, vu que je travaille vachement au niveau local, ça a été une petite réunion en disant voilà, ben. Moi, je travaille. vous avez forcément du résultat. Donc, on ne promet pas parce qu'on ne sait jamais. On est très dépendant de la société actuellement. Mais je travaille, je fais mon travail de community manager de social media. Voilà, quel tarif vous êtes prêt à mettre qui soit raisonnable. Moi, j'ai donné mes fourchettes et on s'est mis d'accord sur ça. Et après, quand ça pousse sur des entreprises, c'est des tarifs. Alors, je ne suis pas au même tarif que la région lyonnaise ou autre parce qu'on ne peut pas. Il faut s'adapter aussi à son marché. Mais du coup, tu varies entre 420 hors taxes et 1500 hors taxes.
Tous les mois. C'est un forfait, c'est ça ?
C'est un forfait mensuel.
Forfait mensuel.
Bien évidemment, tu n'as pas les mêmes prestations du plus petit forfait au plus haut forfait.
Alors, je le précise, on est en Auvergne.
Ouais.
Parce que tu parles de la région lyonnaise, etc. On est en Auvergne et je dirais même on est au fin fond de l'Auvergne. on est au Puy-en-Velay.
Ouais,
néanmoins, une ville très dynamique.
Ouais.
et où les commerçants, les restaurateurs, c'est quoi TPE, PME, dans n'importe quelle industrie, domaine
De partout. Je passe du secteur de l'habillement, forcément, parce que...
c'est ton domaine, garde-robe.
Voilà, je me suis fait connaître sur ça. Et puis, du coup, y a plein de commerces où j'adore aller, moi, en tant que cliente. Et ils m'ont dit, vas-y, communique pour nous, donc pas de souci. Donc, ça passe du prêt-à-porter, ça passe par tout ce qui est optique, ça passe par du pare-brise. Enfin, je peux faire beaucoup de secteurs. Alors après, je vais pas partout. Attention, l'avantage, c'est que je peux gérer. Tu me proposes un truc sur un sujet où je me sens pas à l'aise. Non, je n'y vais pas parce que je vais te faire perdre du temps. Mmh. Et moi, je vais aussi perdre du temps et je vais surtout me mettre en difficulté. Non pas que je n'aime pas me mettre en difficulté, mais il faut savoir être raisonnable au niveau des projets. Et en fait, il faut toujours que tu sois inspiré. Et si pour un projet, tu ne l'es pas, c'est assez complexe, quoi.
D'où le métier très créatif au final.
Donc
créateur de contenu finalement c'est peut-être plus parlant que social media manager qui est plus le côté consulting, qui est plus le côté stratégique.
Alors, si tu veux faire en fait la différence entre influenceur, créateur de contenu, marketing d'influence. L'influenceur, comme tu l'as dit tout à l'heure, il fait des promotions sur des très grosses campagnes parce qu'il a énormément d'abonnés, c'est un vrai influenceur. Pour te faire une idée, tu peux mettre l'influenceur sur quelqu'un qui découle de la télé-réalité. Enfin, aujourd'hui, c'est l'image qu'on en a.
Lui, il n'a pas besoin d'être créateur de contenu, il n'a pas besoin d'être créatif. Lui, il utilise son influence.
Voilà, il peut juste parler devant sa caméra, dans sa maison, dans sa cuisine, c'est simple. Le créateur de contenu, il y en a énormément. Et sur Instagram, moi, beaucoup de filles que je suis, mais que ce soit dans le domaine du sport, de la food, du secteur habillement, Toi, tu peux être créateur de contenu, comme moi, je peux l'être. Tu vois, on est au même niveau. Et toute la partie marketing d'influence, ça, c'est ce qui rentre en compte dans mon métier, le social media. C'est-à-dire que, admettons, tu as... t'es pas obligé d'avoir 20 000 abonnés. Tu vois, t'es pas obligé d'avoir ça. Moi, par contre, les campagnes que je fais, alors autant des fois, tu peux travailler avec des gros influenceurs parce que ton client, il te le demande. Donc, ta partie marketing d'influence, elle rentre dans mon entreprise, si tu veux. Je vais gérer ces campagnes de marketing. J'ai une base de données, etc. Donc, toi, tu arrives, je sais pas, tu as un concept, je sais pas, bullying, etc. Tu me dis, il faut que je fasse connaître mon entreprise. Je veux un influenceur sur la région, mais je veux aussi une famille, etc. Bah, sache que moi, j'ai mené des campagnes où j'ai fait intervenir des personnes qui avaient 60K, etc., qui ont rapporté très peu. Et à contrario, j'ai eu des personnes qui avaient 7 000, 8 000 abonnés et qui ont fait mais plus que la personne qui avait 60K. Okay. Parce que c'est pas la même production de contenu et que la personne qui l'avait choisie était pas assez, je pense, authentique dans son domaine.
Ok. Alors, l'authenticité, justement, c'est un sujet qu'on va creuser. C'est ce qui permet de comprendre, en fait, comment on en est arrivé là et comment des personnes, finalement, sans de grands talents, on pourrait considérer qu'ils ne sont pas créateurs de contenu, qui sont les fameux influx voleurs, comment ils ont réussi à embobiner tout le monde, finalement, et à vendre du copy trading, par exemple, et à vendre des faux produits qui ne marchent pas. Il y a un concept intéressant, donc c'est vraiment le concept de l'épisode, que j'aimerais approfondir. C'est ce qu'on appelle le biais de la simple exposition ou biais de simple exposition. Donc ce biais est largement exploité en marketing d'influence. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Juste pour rebondir, enfin, je ne me positionne pas du tout sur le sujet, mais quand tu dis qu'ils ont réussi à embobiner, etc., je pense qu'eux-mêmes n'étaient pas formés à avoir de l'ampleur, à gérer une telle influence, etc. Donc en fait, ils prenaient ce qui venait.
Oui, ça s'est fait sur le tas. Voilà. Ils ont senti le truc, ils l'ont tiré.
Voilà, généralement, tu sors, tu as été connu au niveau média, tu sors, on te propose telle et telle campagne, mais on te dit, fais le travail, tu reçois un brief, et tu reçois ce brief. Et là, ça va rejoindre ce que je vais te dire.
Ce qui est intéressant derrière ce concept que tu vas nous décrire, c'est que des personnes qu'on ne connaît pas, qui sortent de nulle part, arrivent à nous convaincre sans effort, finalement, en tout cas avec de la répétition.
Ouais.
On t'écoute.
Pour moi, aujourd'hui, on va pas se mentir, on est très souvent sur nos téléphones. Moi, quand je pose la question à mes élèves, vous passez combien d'heures au téléphone ? Mais c'est des heures, mais enfin considérables quand même, tu vois, sur les plateformes, réseaux sociaux, etc. Et en fait, ils aiment bien, ils regardent. Je vais te parler de mon cas. Je sais que beaucoup me suivent au quotidien et ils adorent me suivre. Et c'est vrai qu'on en parlait la dernière fois. On va m'envoyer un message en me posant des questions comme si j'étais... ta meilleure copine, tu vois. Et
alors
là,
qu'ils t'ont jamais vu.
Enfin, alors qu'ils m'ont jamais vu.
À travers le téléphone seulement.
Ouais. Un jour, j'ai une nana qui était tombée gravement malade et elle avait besoin de m'écrire. Et là, moi, je suis normale, mais tu réponds parce qu'en plus, je suis très empathique de par mon ancien métier, etc. Ça ne me gêne pas. Mais du coup, est-ce que si tu ne connaissais pas cette personne, tu aurais pu envoyer ce message à un inconnu ?
C'était un message un peu intime, un peu...
Ouais, des fois, oui. Mais après... je reste ouverte, mais il y a des fois où je me dis, c'est pas à moi que tu devrais en parler. Tu vois, ça doit être confié sur d'autres, et puis n'hésite pas à en parler à ta famille. Donc tu aiguilles toujours, mais tu as cet aspect où, oui, on se connaît pas.
T'es la grande sœur ou la petite sœur.
Voilà, exactement. Et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, que ce soit dans la rue ou c'est, vraiment par message.
Ça c'est dingue. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le biais de simple exposition. C'est que, en gros, si je résume, plus je te vois.
Oui.
De manière authentique en tout cas, pas en mode la pub à la télé, plus je te vois de manière authentique, ce qui semble être à mes yeux quelque chose d'authentique, plus tu m'es familière et plus j'ai l'impression qu'on se connaît, qu'on est amis, et donc plus je vais te faire confiance.
Exactement.
Il y a un sujet de confiance derrière.
Et ça prend en lien ce que tu disais avec les influx voleurs, c'est comme ça que certaines personnes se sont fait un peu... embriqué dans ce délire-là. Pour le trading, on a tous vu ce reportage sur Envoyé Spécial. mais les personnes le verbalisent. C'est ben, pour moi, elle inspirait confiance. Et du coup, ils emmènent sur ce chemin-là qui, où eux même ne sont pas forcément connaisseurs. Et les gens, après, se laissent embarquer. Forcément, tu promets de l'argent à des personnes aujourd'hui. Voilà.
Oui, mais ça, c'est pas nouveau. C'est-à-dire, ceux qui essayent de vendre des formations, ceux qui essayent de vendre des méthodes pour devenir riche, c'est pas nouveau. Mais là, ce qui change par rapport à... Enfin, ce que ces influenceurs ont réussi à faire, c'est qu'en fait, ils ont créé cette communion presque, cette ultra-relation avec leurs abonnés, à tel point qu'ils font figure d'autorité. C'est-à-dire qu'il y a une expérience, je crois, qui s'appelle l'expérience de 1000 grammes, je crois, qui consiste à... C'est une expérience sociale, je m'égare un peu du sujet, mais qui consiste à prouver que le costume fait l'autorité d'une certaine manière, et que quand on a un scientifique qui nous donne un ordre pour une expérience scientifique, on a tendance à le suivre, et cette expérience, elle est fascinante, et elle montre à quel point l'humain est capable de suivre quelqu'un qu'il considère comme faisant autorité. Et là, j'ai l'impression, donc c'est valable pour tout ce qui est uniforme, on va dire, donc pompiers, gendarmes, etc. Là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'uniforme de l'influenceur, c'est-à-dire que ces personnes font autorité. Moi, j'avoue, demain, tu me conseilles un produit. Bon, je te connais, c'est un peu différent, mais demain, tu me conseilles un produit. Vu que je te crois authentique, ouais. Au-delà du fait que je te sais authentique, je vais avoir tendance à te dire, ok, ce qu'elle me raconte, ça a l'air d'être vrai, j'ai envie de la croire, là où n'importe quelle publicité aujourd'hui, j'en suis extrêmement méfiant. Ouais. Donc l'influenceur, je reviens sur ce sujet, parce que je trouve ça fascinant ce que ça génère en termes de biais cognitif, c'est que, ouais, il y a une sorte de figure d'autorité.
Exactement.
Et on peut comprendre ces gens qui sont tombés dans le... Alors toi, t'as résisté. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs, t'as à cœur de dire « je ne suis pas influenceuse ».
Oui.
Parce que finalement, ceux qui ne résistent pas sont un peu embarqués dans ce truc de voilà, il y a de l'argent facile derrière. On peut comprendre. Les gens sont tellement... ils pensent que t'es leurs amis, donc ça devient facile de les convaincre, finalement.
Bah, complètement. Mais tu vois, je rebondirais juste sur quelque chose, parce que moi, je le mets en œuvre assez régulièrement. On a un rôle aussi, alors créateur de contenu, parce que tu as des créateurs qui... Attention, les créateurs ont aussi beaucoup, beaucoup de visibilité et beaucoup d'abonnés. Hein, tu vois, il faut vraiment mettre en distinction l'influenceur des créateurs de contenu.
Créateur de contenu, c'est plus proche d'un...
C'est quelqu'un qui...
D'un média.
C'est une personne qui va avoir son propre compte et qui va partager son quotidien, mais il y a un travail quand même derrière. Cette personne, elle sait faire de la création vidéo, elle sait comment ça fonctionne. Enfin, voilà, mais elle est toute seule, voilà.
Mais le modèle économique n'est peut-être pas tout à fait le même.
Non, forcément, c'est plus compliqué. L'influenceur, il peut tout avoir vu que... Bah, t'as le nombre d'abonnés, donc t'as des super bonnes stats, donc forcément les marques, elles ont envie de travailler avec toi. C'est facile, le créateur de contenu va devoir prouver, etc.
Oui.
Mais pour rebondir à ce que tu disais, y a un rôle de sensibilisation. Par exemple, moi j'interviens dans des collèges ou lycées et tu sensibilises les jeunes à appréhender un réseau social, à faire attention à ce que
vont
les voir, parce qu'aujourd'hui il y a de l'IA. On commence à en parler, alors nous forcément on est dedans, mais il y a des fois des fausses informations qui peuvent être mises et on a un rôle de sensibiliser. Donc c'est-à-dire, je pense qu'il faut faire confiance effectivement à la personne, au créateur de contenu ou l'influenceur que tu vois. Et alors nous on se connaît effectivement, mais moi de ma personne... je n'irai pas te vendre n'importe quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver? J'aurais super peur, tu vois. Moi, je suis honnête et je sais que ce que je montre, déjà, soit je me l'achète, soit c'est pour donner un petit peu de visibilité avec les personnes avec qui je travaille. Et voilà, j'ai rien à reprocher dessus. Mais je pense que certains influenceurs qui sont allés loin n'ont pas eu ce rôle de sensibilisation. Comme je te disais tout à l'heure, eux non plus n'ont pas été sensibilisés au départ.
Est-ce que tu as une anecdote un peu folle à nous partager par rapport à ton métier ou par rapport justement à ton expérience de... alors je sais plus comment le dire maintenant, mais en tout cas de personne suivie sur les réseaux. Alors tu nous as parlé de cette personne qui t'a écrit comme si tu étais sa confidente, qui était gravement malade.
J'ai pas d'histoire, j'ai pas de commentaires négatifs parce que comme je t'ai dit, ma communauté est vachement...
Bienveillante
et à cœur que tout se passe bien, même si des fois je dis un truc qui va m'énerver, elles vont faire ah ouais, pourquoi nous on est là, genre j'ai une équipe de femmes derrière moi, tu vois.
Ça, c'est fou.
Et ben ouais, c'est super, mais en même temps elles m'ont vu grandir, elles m'ont suivi depuis maintenant pratiquement même plus de 6 ans en fait sur la plateforme.
Il y a une vraie connexion.
Il y a une vraie connexion. Et en histoire, qu'est-ce que je pourrais te raconter d'un peu d'un
je sais pas, il n'y a pas eu... on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Plus on est exposé sur les réseaux, plus on peut réutiliser notre voix, nos visages. Là, aujourd'hui, on l'a déjà vu, c'est très facile de récupérer ta tête.
Je sais que vous avez trop envie de faire ça. Et là, en fait, je suis en train de me rendre compte que je vous ai tout donné ce soir pour réaliser, ce projet.
Alors, regarde un peu les caméras pour... Non, personne t'a voilà, s'est fait passer pour toi. Personne, je sais pas, t'a envoyé de fleurs un abonné ou une abonnée totalement fan. Y a pas d'histoire.
J'ai pas d'histoire. Mais tant mieux. Bizarre, donc tant mieux. Juste le fait où moi le seul truc malaisant c'est quand on pense me dire bonjour et que je dis salut.
Tu connais pas.
Ouais. Mais ça reste gentil. Mais j'ai pas d'histoire hyper loufoque. Pourtant, c'est dingue, je suis délirante de base, mais, mais là, j'ai pas, non.
Ok, ça marche. On a peu parlé de e-commerce. Et ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu as des projets, je crois, e-commerce, ou en tout cas, tu as un plan en tête.
Ouais, exactement. Dans ma consommation personnelle, je me dirige aussi beaucoup sur l'aspect seconde main. Le e-shop était un peu en stand-by depuis la création. Et du coup, on a fait équipe.
Ouais, j'avoue, c'est un instant auto-promo.
Là, je fais de la promotion, par exemple. Et du coup, vous m'avez retravaillé mon site. Donc, on a mis en avant la partie social media, communication pour les entreprises. Et le but, c'est de développer la partie e-commerce, mais sur un aspect seconde main. Le projet, parce qu'on me demande souvent de créer de l'événementiel autour de vide dressing, etc., sur le bassin du Puy, j'ai un manque de temps. Je ne peux pas gérer ça toute seule. Et je me suis dit, en fait, je pourrais développer cet outil donc avec vous, d'aller chez les filles. Je sélectionne avec elles les vêtements, les marques, etc. Et ensuite, je poste sur mon site et les gens peuvent acheter via mon site. Et en fait, c'est des articles de seconde main. L'avantage, c'est que la nana qui mettra ses vêtements sur le site aura une vidéo de présentation de tous ses vêtements. Et je lui sers, en fait, d'entremetteuse avec les abonnés et son dressing.
C'est vraiment ce qu'on appelle le social selling ou social commerce. C'est-à-dire que c'est... parce que là, comme ça, de ta description, on pourrait se dire, oui, c'est Vinted, finalement. Mais il y a la dimension réseaux sociaux qui rentre en jeu. Là où Vinted, exactement, c'est une plateforme, finalement. Ouais. Voilà, alors certes, c'est essentiellement sur mobile, je crois, ou... Peut-être c'est aussi sur site web, mais la différence, c'est qu'il y a l'aspect réseaux sociaux qui rentre en compte. Ouais. Donc, qui dit réseaux sociaux, dit contenu authentique. Enfin, voilà, tout. Donc, c'est vraiment le social commerce qui est en fait la grande tendance, ouais, ou en tout cas, ce qui va être bientôt, je pense.
Et au moins, tu peux rencontrer finalement ces filles que je ne connais pas juste derrière un écran. Et je peux les rencontrer en vrai, je peux partager un temps. Et au départ, ça, je le faisais. Et aujourd'hui, je me suis dit, il faut vraiment que tu t'y remettes. Mais autant lier l'utile à l'agréable aussi pour elle et qu'elle puisse mettre avec visibilité du coup leur garde-robe et du coup renouveler et que les vêtements aient une seconde ou plusieurs années derrière.
Et c'est une toute autre expérience. Et donc ça, cette boutique, elle sera directement accessible sur tes réseaux. Comment on peut y accéder? C'est sur Instagram? Tout se passe sur Instagram?
Tout se passe généralement sur Instagram parce qu'aujourd'hui, tu peux associer des liens ou sur le site garderobe.fr que vous m'avez... Okay. Qui est tout neuf.
Ok, bon, on mettra tout ça, on mettra tous les liens directement dans la description de la vidéo. Merci beaucoup, Morgane, pour le partage de tes connaissances, de ton métier, de ta passion. On est très loin de l'aide-soignante, là.
Ouais.
tu regrettes pas? C'est très différent.
Alors, c'est totalement différent. J'adore mon métier de base. Bon, maintenant, ça fait longtemps que je n'ai pas exercé. Mais non, parce que j'ai un métier qui est stimulant. Et le fait de mettre en valeur, comme je disais au départ, des entreprises et de travailler avec eux. Donc, j'ai tellement de clients qui sont différents. Donc, du coup, tu apprends énormément. Et c'est stimulant, en fait, au quotidien.
Ok, voilà. Ça marche. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci à vous qui avez regardé cette vidéo. Teasy Media, c'est à la fois une chaîne YouTube et également une newsletter. Et l'objectif est de raconter des histoires simples pour comprendre des sujets complexes. Là, aujourd'hui, c'était le marketing d'influence. On a essayé de débunker un peu ce que c'était, la création de contenu, le marketing d'influence, l'influenceur. Je vais vous mettre toutes les infos utiles en description. Il y aura des vidéos comme ça chaque mois, alors parfois avec un format podcast, interview comme on vient de le faire, et parfois où c'est simplement une histoire et on décortique ensemble un concept. Alors si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.